Territoire d'info, l'actualité en français du Grand Nord canadien, avec Thomas Etier.
Bonjour, ici Thomas Etier, journaliste pour Média Ténois. Bienvenue à Territoire d'info, votre bulletin d'information francophone pour savoir ce qui se passe au territoire du Nord-Ouest et un peu partout dans le Grand Nord canadien. Voici ce qui a retenu notre attention cette semaine. On connaît désormais les noms des quatre candidats des territoires du Nord-Ouest qui représenteront le Parti conservateur, le Parti libéral, le NPD et le Parti vert aux élections 2021. Le nombre de cas de COVID-19 monte en flèche au territoire du Nord-Ouest. Thomas Chabot nous fait un compte-rendu de la situation. Les trois allégations portées publiquement l'hiver dernier à l'endroit de Tim Mercer, greffier de l'Assemblée législative, seraient non fondées, selon un rapport d'enquête. On vous présente les trois candidats qui tenteront d'accéder à la tête du gouvernement Clichon dans le cadre des élections du 30 septembre. Environ 75% des terres qui se trouvent à l'intérieur des limites de la municipalité de Yellowknife sont gérées et administrées par le gouvernement des territoires du Nord-Ouest. La situation est appelée à changer dans les prochaines années. Et finalement, on vous présente la nouvelle étiquette indépendante en ligne One North Recording, qui produit des artistes locaux depuis maintenant un an. Plus d'une semaine après le déclenchement de la campagne électorale par Justin Trudeau, le Parti conservateur et le Parti vert ont dévoilé les noms de leurs candidats pour les territoires du Nord-Ouest. Leah Mollison représentera la bannière conservatrice. Roland Ofer, résident de Yellowknife, représentera le Parti vert du Canada. Le nom de la candidate Leah Mollison a été dévoilé ce mardi 24 août dans une lettre envoyée aux partisans du Parti conservateur. Aucune description de la candidate n'a été fournie. Les quelques recherches effectuées par Média Ténois n'ont permis d'obtenir aucune information sur la candidate. Il n'existe actuellement aucun compte au nom de Leah Mollison sur les plateformes Facebook, Twitter, LinkedIn ou Instagram. Selon le parti, une biographie de la candidate devrait être dévoilée ce vendredi. Originaire d'Allemagne, le candidat du Parti vert pour les territoires du Nord-Ouest, Roland Ofer, est arrivé au Canada au début des années 90. Tel qu'indiqué dans la description fournie par le parti, M. Ofer est notamment trésorier de la coopérative des artistes de Yellowknife. Comme dévoilé en début de campagne, le candidat du NPD pour les territoires du Nord-Ouest est Kevin Cochilla. M. Cochilla est présentement directeur financier pour le ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation. Il y a quelques semaines, il était candidat pour devenir député de la circonscription de Montfuy à l'Assemblée législative des territoires du Nord-Ouest. Le Parti libéral du Canada est représenté par Michael McLeod, qui brigue un troisième mandat de député des territoires du Nord-Ouest. Média Ténois présentera la plateforme électorale de chaque candidat dans le cadre d'une émission spéciale élection, qui sera présentée dans la semaine du 6 septembre. Près de 250 cas de la COVID-19 se sont déclarés au territoire du Nord-Ouest en un peu plus de deux semaines. Plusieurs collectivités sont aux prises avec une transmission communautaire et on déplore un premier décès. Thomas Chabot a suivi le dossier cette semaine et est avec nous pour nous donner les dernières informations. D'abord, Thomas, où est-ce qu'on en est avec l'évolution du nombre de cas?
Alors, comme vous le disiez, Thomas, la situation a changé très rapidement depuis près de deux semaines et même depuis notre dernière discussion à Territoire d'info la semaine passée.
Oui.
Il y a désormais 247 cas exactement de COVID-19 au territoire, majoritairement dans la région du Saskatoon. La santé publique a d'ailleurs prolongé les restrictions temporaires à Fort Goodhope et à Colville Lake et a ajouté des restrictions du côté de Norman Wells. Pour Fort Goodhope et Colville Lake, les restrictions sont prolongées jusqu'au 4 septembre. Alors, je vous propose de faire un décompte rapide des cas par collectivité. À Fort Goodhope, 89 cas, Colville Lake, 75, Norman Wells, 29, Deligny, 9. Alors, on voit que dans le Saskatoon, c'est majoritairement là où les cas se trouvent.
Oui, on parle d'une proportion importante de la population, là, carrément, là, qui a la COVID-19 à l'heure actuelle.
Oui, une proportion est très importante.
Mm-hmm.
Et du côté de Yellowknife, 36 cas, Hay River et la Première Nation, Katlo-Duché, 3 cas, et à Fort Providence, 3 cas aussi. Inuvik, Fort Smith et Gameti ne connaissent qu'un seul cas pour l'instant. Des traces de COVID-19 ont aussi été trouvées dans les eaux usées de Bechokon. Et si pour l'instant, la santé publique n'a pu confirmer de cas, Dr. Kandola a annoncé en conférence de presse mercredi qu'il y aurait au moins un cas dans la collectivité.
Mm-hmm.
Jusqu'à présent, 8 hospitalisations ont eu lieu et malheureusement, un homme est décédé des suites de la COVID-19 pour la première fois depuis le début. Et la salle de presse de Média Ténois tient à offrir ses sympathies à la famille, bien entendu.
Tout à fait.
Et les cas confirmés de transmission communautaire présentement se restreignent à Fort Goodhope, Colville Lake et Norman Wells. Cependant, et je vous cite Dr. Kendola, certains lieux à Yellowknife ont été le site de transmission communautaire. Donc, on voit un début de transmission communautaire à Yellowknife. Elle a annoncé ça en conférence de presse mercredi.
Et Thomas, des changements ont également été apportés aux règles sanitaires cette semaine. On doit porter le masque à l'intérieur.
Oui, c'est ça. Je ne vous l'apprendrai pas, cette nouvelle. Le port du masque est redevenu obligatoire à partir de jeudi 8h pour l'entièreté des lieux intérieurs publics et ce, jusqu'à nouvel ordre. La santé publique déconseille aussi les déplacements non essentiels et la première ministre des Territoires du Nord-Ouest, Caroline Cochrane, a confirmé hier en conférence de presse qu'un message avait été envoyé aux employés du GTNO leur conseillant de ne pas voyager pour des raisons non essentielles. Des changements ont aussi été apportés à l'auto-isolement ainsi qu'au test de dépistage requis dans certains cas. Alors, la vérification des symptômes s'effectue dorénavant aux jours 4 et 6 de l'auto-isolement et ne sera plus nécessaire aux jours 10 et 14. Et pour les voyageurs entièrement vaccinés revenant au territoire du Nord-Ouest, un test sera requis aux jours 1 et 8. Et pour les voyageurs partiellement vaccinés, ce sera un test à la 8e ainsi qu'à la 14e journée, qui ne sera plus requis celui à la 14e journée.
Et mis à part ces changements aux règles sanitaires, on a de nouvelles notifications d'exposition à mentionner là, qui ont été ajoutées au tableau cette semaine.
Oui, c'est rendu dans le Slave Sud, ces notifications d'exposition, notamment du côté de Hay River, où pour la première fois depuis le début, une notification d'exposition a été émise. Alors, il y en a trois au total, le terrain de Camping Two Seasons pour la soirée barbecue du 21 août, le supermarché Super A le 20 août en milieu de journée et la pharmacie Wings le 20 août en milieu d'après-midi. Des vols Derrick Indy partant de Yellowknife vers Gameti le 22 août ont aussi été ajoutés à la liste. Et pour ce qui est de la situation à la Première Nation Katlodiche, peu d'informations sont disponibles pour le moment, mais il y aurait eu un risque d'exposition à l'intérieur d'une résidence. La santé publique n'a pas confirmé cette information, mais la Première Nation Katlodiche a émis sa propre notification d'exposition et a demandé à tous les résidents de s'auto-surveiller ou de s'isoler pendant 10 jours, dépendamment du statut vaccinal.
Donc, le nombre de cas qui augmente très rapidement. On suit de près la situation. Et encore une fois, nos condoléances à la famille et aux proches de l'aîné Gabriel Cochon, ce résident du Satou, qui est décédé des suites de la COVID-19. Thomas Chabot, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Bonjour, ici Thomas Etier, journaliste pour Média Ténois. Voici un segment d'information. La 4e Assemblée Clichon concluait sa dernière session parlementaire ce vendredi 20 août avec la nomination des candidats aux élections du 30 septembre. Tel qu'annoncé, l'ancien député des territoires du Nord-Ouest, Jackson Lafferty, entre dans la course aux côtés de George McKenzie et Eddie Erasmus, qui comptent chacun deux mandats à la tête du gouvernement autonome Clichon. Suivant le protocole électoral en place, le président de l'Assemblée a invité les citoyens de chacune des quatre collectivités à proposer un candidat. Une fois nommé, chacun d'entre eux disposait de 15 minutes pour expliquer à l'Assemblée et au public les raisons qui les amènent à vouloir devenir grand chef de la 5e Assemblée Clichon.
George McKenzie, c'est Eddie Rasmussen,
Après avoir remercié en langage Clichon ses deux adversaires pour les mandats qu'ils ont accomplis dans le cadre des derniers gouvernements, Jackson Lafferty a livré un discours axé sur le besoin de changement dans la région.
And we hear almost the same issues almost every year. And a lot of people are asking, even outside here in the communities, why isn't these initiatives that we raise moving anywhere?
Les résidents déplorent les mêmes problèmes année après année, a-t-il indiqué, soulignant les enjeux relatifs au logement et aux problèmes de dépendance dans les collectivités de la région.
You know, all these areas of concerns brought up, even the young individual brought up BIP, Business Incentive Program for business, entrepreneurs. We don't see much of that in our region, in the Clichon region. So I think it's time that we start listening to our people raising these issues.
Monsieur Lafferty compte également apporter plus de soutien aux jeunes de la région qui comptent se lancer en affaires. Monsieur Lafferty a été élu en 2005 comme député des territoires du Nord-Ouest pour sa circonscription. Il a notamment été ministre de l'Éducation et ministre responsable des langues officielles sous le gouvernement de Bob McLeod. Jackson Lafferty était candidat au poste de premier ministre des Territoires du Nord-Ouest en 2019. Il a été battu par Caroline Cochrane. Le grand chef sortant, George Mackenzie, brigue un troisième mandat au gouvernement Clichon, lui qui a été élu à la tête de la première assemblée Clichon en 2005, puis élu en 2017 dans le cadre de la quatrième assemblée Clichon.
It has been an honor to be your grand chief for the past 4 years.
Dans son discours, M. Mackenzie est revenu sur les accomplissements des 4 dernières années qui auront été marqués, selon lui, par les plus importants changements dans la région depuis l'établissement du gouvernement autonome Clichon en 2005. M. Mackenzie a souligné la signature durant son mandat de la loi sur les ressources minières avec le gouvernement des TNO ou encore le rôle qu'il a lui-même occupé à Ottawa pour représenter les gouvernements autochtones autonomes du pays.
Across the NWT and Canada, the Clichon is well respected and influential, as did this by building strong relationship with the federal government, the territorial government, and other indigenous government by strengthening our own government structure and program from within.
George Mackenzie indique avoir bâti au cours des 4 dernières années, alors qu'il était grand chef, de bonnes relations avec les gouvernements fédéral et territorial ainsi que les autres gouvernements autochtones, tout en renforçant les structures et programmes du gouvernement Clichon.
All that we accomplish, housing, now is time to implement it. That's why I came back. I call it unfinished business.
Ce que nous avons obtenu, nous devons maintenant le mettre en place dans nos collectivités, a-t-il indiqué. Pour sa part, le candidat Eddie Erasmus a d'abord été élu grand chef Clichon lors d'élections partielles en 2011, puis a été élu pour un autre mandat de 4 ans, de 2013 à 2017. Il a notamment été négociateur et signataire de l'entente Clichon de 2005, en plus d'avoir participé à l'écriture de la Constitution Clichon. Il a été chef du conseil tribal d'Ogrib de 1990 à 1993. Monsieur Erasmus mise aujourd'hui sur son engagement de longue date vers l'atteinte d'un gouvernement autonome et de son déploiement.
These programs and services, like for example, maybe education, we need more funding because the way it is run now, if the funding is not adequate, it's going to fall apart if the budget is not adjusted and renegotiated.
S'il est élu grand chef, il compte plaider notamment pour une prise en charge complète des programmes et services qui sont actuellement co-gérés par le gouvernement des TNO, comme le système d'éducation.
We can start taking on more services and programs. We can't have the federal government running it for us forever.
Nous ne pouvons continuer à être sous la tutelle du gouvernement des TNO, a-t-il indiqué. Nous devons négocier afin d'obtenir le financement adéquat pour gérer nous-mêmes ces services. Les 3 allégations publiques formulées à l'endroit du greffier de l'Assemblée législative, Tim Mercer, seraient non fondées. C'est ce que conclut la firme Kentet Consulting, qui a mené une enquête indépendante concernant ces allégations, en plus d'une évaluation du climat de travail au bureau du greffier. En regard des rapports qui lui a été fournis, le bureau de régie de l'Assemblée législative doit maintenant établir un plan d'action. Une enquête indépendante a d'abord été réclamée en février 2021 par le député de Toonaidé-Wildé, Steve Norn. Ce dernier a publiquement accusé Tim Mercer d'abus d'autorité et d'intimidation à l'endroit d'employés de l'Assemblée et de députés. La firme Kentet a conclu que les plaintes formulées par le député Steve Norn, par l'ancienne directrice générale des élections, Nicole Latour, ainsi que par l'employé April Taylor, ne sont pas fondées. La firme a toutefois déterminé qu'une 4e allégation, déposée de façon anonyme, serait fondée, cette allégation voulant que le greffier ait brisé certaines règles de confidentialité de l'Assemblée législative. M. Norn et Mme Taylor ont identifié l'hiver dernier 6 personnes susceptibles de vouloir porter plainte contre M. Mercer. Aucune d'entre elles n'a formulé d'allégation. Dans le cadre de l'examen du climat de travail au bureau du greffier, plus de 30 employés ont été interrogés de façon volontaire et anonyme. Selon un résumé du rapport publié par le bureau de régie, bien qu'il existe une certaine division au bureau du greffier, on ne pourrait parler d'un climat de travail toxique à proprement parler. Bien qu'une large majorité des participants ont décrit le greffier de manière positive, peut-on lire dans ce résumé du rapport, certains d'entre eux ont soulevé ce qui doit être considéré comme de sérieuses préoccupations à propos de sa conduite. D'importants problèmes auraient été pointés dans l'environnement de travail du bureau du greffier. S'ils ne sont pas traités, peut-on lire, ces problèmes sont susceptibles de continuer à affecter de manière négative le milieu de travail pour un nombre croissant d'employés. Cette évaluation du milieu de travail se limitait aux préoccupations soulevées dans le cadre de la 19e Assemblée législative, soit depuis le 1er octobre 2019. La firme Kentet Consulting est connue pour avoir récemment enquêté sur le climat de travail jugé toxique au bureau de l'ancienne gouverneure générale du Canada, Julie Payette. La municipalité de Yellowknife souhaite obtenir au cours des prochaines années la responsabilité de gestion de la majorité des terres qui se trouvent à l'intérieur de ses limites. À l'heure actuelle, environ 75 % des terres incluses dans les limites de la municipalité sont gérées par le gouvernement des territoires du Nord-Ouest. Avec l'aval du conseil municipal, l'administration compte s'engager sous peu avec le gouvernement dans un processus de transfert substantiel des terres, qui correspondrait à environ 4600 hectares de terrain. Le tout inclut une importante superficie de terrain vague située en périphérie du centre-ville qui serait propice au développement résidentiel, commercial et touristique, en plus de terrains situés en bordure de lacs et même de certaines routes qui traversent Yellowknife. Le gouvernement de Caroline Cochrane a inclus le transfert substantiel de terres à la municipalité de Yellowknife dans le mandat de la 19e Assemblée législative. À l'heure actuelle, la municipalité possède et gère environ 11 % des terrains inclus dans ses limites, une proportion qu'elle compte faire passer à 59 % au cours des prochaines années. À l'heure actuelle, le gouvernement cède les terrains à la municipalité au cas par cas, un processus décrit comme long, complexe et coûteux par l'administration, et qui se serait dressé devant plusieurs initiatives de développement. C'est ce qu'a indiqué l'administratrice principale Sheila Bassi-Kellett au moment de présenter le projet aux conseillers municipaux.
So we have come to learn that without the authority to administer all public unfettered lands within our boundary, our hands are really tied when it comes to supporting development in Yellowknife within the overall context of our community plan.
Faute d'avoir le pouvoir d'administrer toutes les terres publiques qui se trouvent dans les limites de la municipalité, a indiqué Mme Bassi-Kellett, nous avons les mains liées quand vient le temps d'appuyer le développement de Yellowknife. Des propos corroborés par la mairesse Rebecca Alty.
Last year, we had a request for a quarry, and it took over well over a year to get back the GNWT to say, yep, they would lease that land to us. And you know, in the meantime, the business has gone and found different opportunities.
La mairesse donne ici l'exemple d'une demande qui a pris plus d'un an à être traitée par le gouvernement des territoires du Nord-Ouest. C'était dans le but d'offrir l'accès au terrain à un entrepreneur qui, en raison des délais importants, s'est tourné vers d'autres occasions d'affaires. Lui-même propriétaire d'une entreprise de construction, le conseiller municipal Nils Kange a témoigné des obstacles qui se dressent actuellement devant les entrepreneurs qui souhaitent exploiter certains terrains inclus dans les limites de la municipalité.
I don't think before I came on council in 2012 that I realized how big of a problem this really was for the city. You know, as a contractor who's trying to be a developer, like, why can't we get land? And then you start to understand that the process to actually try to get land is so difficult and such a time-consuming process that it's not a wonder that, you know, developers just give up. And, you know, there's always seems to be a lack of lots and land. And
je n'avais pas bien réalisé avant de devenir conseiller à quel point cette situation était problématique, a-t-il indiqué. Comme entrepreneur, poursuit-il, je comprends maintenant à quel point les procédures entourant l'acquisition d'un terrain sont longues et complexes pour la municipalité. Il n'est pas étonnant que plusieurs projets soient abandonnés. Selon Mme Bassi-Kellett, l'administration municipale a consulté la Première Nation des Dene Yellowknives pour toutes les demandes d'accès aux terres soumises au gouvernement des TNO depuis 2019. Ce plan de transfert des terres sera déployé par la municipalité et par le gouvernement des TNO. L'administration prévoit que ce plan de transfert des terres à la municipalité pourrait être complété d'ici 2025. Le tout doit d'abord être officiellement approuvé par le conseil municipal. Il y a environ un an, les mélomanes Chad Inchey et Alec Warinsky fondaient l'étiquette indépendante One North Recording, un espace de création aménagé au beau milieu du confinement dans le but de faire éclore la relève musicale du Nord. La maison de disques indépendante en ligne compte aujourd'hui 10 artistes qui se sont produits cet été dans le cadre du festival Folk on the Rocks. Pour une majorité d'entre eux, c'était une première expérience devant public.
If you had told me last year at the beginning of COVID that like, hey, you're, you know, like in this label that you started, you're going to wind up having a showcase at Folk and 10 artists perform at Folk on the Rocks. And, you know, I would have told you you're crazy.
Si vous m'aviez dit il y a un an que ces musiciens en herbe allaient se produire cet été au festival Folk on the Rocks, confie M. Inchey, je vous aurais traité de fou. L'étiquette compte aujourd'hui 4 producteurs qui s'affairent à mettre en forme les œuvres des créateurs. Si quelqu'un enregistre une chanson à la guitare et souhaite la produire, résume M. Inchey, nous pouvons le mettre en contact avec l'un de nos producteurs et développer sa pièce. Plusieurs des jeunes artistes sous l'étiquette One North Recording sont des artistes hip-hop, une scène qui sera en pleine émergence au territoire du Nord-Ouest, ce qui ne fait toutefois pas ombrage à d'autres styles musicaux comme le folk de l'auteur-compositrice-interprète Grace Clark ou l'électropop de J.T. Diamond.
I think the big thing for us is doing everything we can to help get eyes on a lot of our northern talent. You know, like ever since we started this, like the amount of people that I've either found or seen or been in contact with that I never would have seen before.
Notre mission, dit Monsieur Inchey, c'est de porter le regard sur les talents du Nord en leur offrant la plateforme et les ressources nécessaires pour porter leurs talents sur les plateformes de diffusion comme Spotify ou les scènes des territoires du Nord-Ouest. Plus d'une centaine de spectateurs a assisté en juillet à la toute première performance du rappeur Brian Toyeshimi, alias Kid Gally, qui était accompagné sur scène par ses acolytes Benny Beats et Northwind. Le rappeur a décliné les pièces de l'album Moods, enregistré en octobre 2020. Selon M. Toyeshimi, One North Recordings a fait sortir plusieurs artistes de leur isolement.
Quand j'étais seul, c'était vraiment privé, mais maintenant, il faut que je... C'est différent, vraiment, devant le public. C'était une façon de montrer vraiment mes émotions, mes vraies émotions, tu vois, mais un côté de moi qui... Je ne voulais pas dévoiler au monde, tu vois, ce côté triste et mélancolique de moi qui... C'était vraiment ma faiblesse, quelque chose que je voulais pas montrer, mais que du coup, en montrant au monde, ça me renforçait, ça me rendrait plus fort.
En fonction de ce que permettra ou non l'évolution de la pandémie, One North Recordings prévoit pour les prochains mois des concerts, des conférences et des ateliers. L'occasion pour ce collectif d'artistes de partager leur musique au grand public après une année d'incubation.
Pour nous, nous avions toujours kind of talked about doing our own label and not really knowing how that would go or what it would look like, but basically through the midst of COVID, you know, we kind of decided like, well, you know what, let's start this thing.
C'était une grande occasion qui se présentait à nous, indique Monsieur Inchey en parlant de la pandémie. C'est un projet qui était sans cesse remis à plus tard. Puis au printemps 2020, dit Monsieur Inchey, on s'est dit, allons-y, on a le temps.
For a lot of artists, like the ability to perform and opportunities for like payment to perform at shows and that kind of stuff was kind of lost for sure. And that's a tough thing for people. But I think for people like myself and some of these younger artists and really any artist it gave us some freedom and some time to create.
Le producteur conclut ainsi. La pandémie aura été très difficile pour plusieurs artistes qui ont été privés de leur capacité de se produire sur scène et d'être payés pour leur art. D'un autre côté, cette pause forcée a offert à plusieurs artistes la liberté et le temps de créer. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Notez que Territoire d'Info fait relâche la semaine prochaine. On vous revient sans faute à partir du 10 septembre. D'ici là, on souhaite une excellente rentrée scolaire à tous les élèves des territoires du Nord-Ouest. Je suis Thomas Etier, journaliste de l'Initiative du journalisme local. Je vous souhaite une excellente fin de journée.
Territoire d'Info. une émission de l'initiative de journalisme local financée par le Fonds canadien de la radio communautaire.